Radio Grand Ciel présente B-Jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Patrick Durand et Gilles Secaz ont choisi de nous faire partager leur goût en matière de jazz. Et pour ce faire, nous écouterons les morceaux les plus emblématiques des jazzmen. Chers auditeurs, vous connaissez Patrick Durand, un médecin, pianiste de jazz, qui s'intéresse à l'harmonie et qui aime nous faire partager les émotions avec des morceaux qu'il aime tout particulièrement. Vous connaissez également Gilles Secaz, un journaliste passionné de jazz, qui grâce à sa guitare, nous fait vivre des moments exceptionnels. Gilles Secaz, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Aujourd'hui, vous avez choisi Wes Montgomery, un jazzman qui est né en 1923, n'est-ce pas Patrick Durand ?
Bien sûr, un jazzman très connu, un guitariste très connu dont nous allons parler.
Nous allons parler de Wes Montgomery, un guitariste particulièrement apprécié par, je pense, la plupart des jeunes guitaristes, ou en tout cas les guitaristes débutants qui se lancent dans le jazz. Wes Montgomery, c'est quelqu'un qui a su, un peu à la manière de Django Reinhardt, être le passeur entre la guitare de Charlie Christian et puis la guitare de jazz moderne.
Oui, parce que c'est quand il a écouté Solo Flight qu'il a vraiment eu l'idée de faire du jazz.
Oui, Christiane, il s'est mis à la guitare.
Il avait 20 ans,
il était déjà père de famille et il s'est mis à la guitare. Et en 5 ans, à force de travail, d'énormément de travail, il a su créer un style qui lui était particulièrement propre et qui est reconnaissable entre mille. D'ailleurs, on peut l'écouter.
Parce qu'on peut dire qu'un an plus tard, il rejoue les solos de Charlie Christian dans des clubs locaux. C'est vraiment, on peut dire, un autodidacte.
C'est un autodidacte. Il ne connaissait pas la musique. Et puis,
Il n'a pas eu le temps d'avoir une formation musicale.
Et puis, il a créé un style parce que pour s'entraîner, il a abandonné le médiator. Vous savez, ce morceau de plastique, à l'époque, c'était de l'écaille de tortue, qui gratte les cordes de la guitare. Ça faisait trop de bruit, donc il s'est mis à jouer au pouce et il a développé une technique au pouce qui est reconnaissable entre mille.
Ah oui!
Absolument.
Alors, écoutons tout de suite. Je propose, nous parlerons ensuite des problèmes techniques.
Oui.
Écoutons tout de suite une composition assez connue de Wes. Thank you.
C'est Far West, une composition de Wes Montgomery, comme tu le disais, Patrick. Et on a autour de Wes Montgomery ses deux frères, Buddy au piano, Monk à la contrebasse, et puis le saxo ténor.
Monk, le frère, pas Thelonious.
Pas Thelonious, non. Monk Montgomery. Et puis Harold Land au saxo ténor et Tony Basley à la batterie. C'est une occasion extraordinaire d'entendre Wes à ses débuts en petite formation. Mais le meilleur est à venir.
On peut écouter par exemple, et tout de suite, Écaro, qui est un morceau passablement connu.
Une composition d'Horace Silver. Thank you.
Voilà, donc nous avons écouté le West dans sa meilleure époque, je pense. Je parle sous le contrôle de Gilles, quand même guitariste. Je pense que tous les guitaristes sont impressionnés par West pour plusieurs raisons. D'une part, sa technique, effectivement, un toucher très sensible. Et d'autre part, le jeu en octave. Je crois, Gilles, que tu peux nous dire quelque chose pour les amateurs de guitare qui nous écoutent à l'heure actuelle et ceux qui voudraient savoir pourquoi, le pourquoi des choses.
Mais je crois que ça se résume très simplement à trois choses. Exposé mélodique simple, jeu à l'octave, ensuite, et accord bloqué, en finale, à la manière des meilleurs pianistes. C'est reconnaissable, c'est Wes Montgomery, il a toujours fait ça. Et notamment, sur un morceau comme celui-ci, et Caro, qui est sur son album Wes Montgomery Trio, il vient de signer avec la maison de disques Riverside, c'est 1959, et il est accompagné par ses deux acolytes d'Indianapolis, Melvin Hine à l'orgue et Paul Parker à la batterie.
Oui, il ne faut pas oublier qu'il a quand même une vie difficile parce qu'il s'est marié jeune, il doit nourrir une famille nombreuse, 8 personnes, et il travaille le jour comme soudeur dans une usine de composants électroniques. Et à 15h, il rentre, il se repose parce qu'il va aller jouer dans les bars, puis sur la scène de club de jazz, disons presque toute la nuit.
Toute la nuit, il enchaîne plusieurs prestations et il termine le matin, vers 4h du matin ou 5h du matin, je ne sais plus. C'est une vie très très dure et ça va durer comme ça des années et
ah
des
oui.
années.
Oui.
Mais c'est le Wes Montgomery que l'on aime,
oui.
celui bien avant son passage chez Verve, à la suite de la faillite de la maison de disques Riverside. Mmh. Et on en reparlera. On va peut-être écouter un autre titre en attendant.
Oui, moi je propose qu'on puisse écouter le Gone with the Wind, que tout le monde connaît, même si le titre, pour certains, est assez obscur.
Extrait de l'album The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. Thank you.
Voilà, donc nous avons écouté un standard assez connu, Gone with the Wind. Je pense pas grand chose à dire, sauf que c'est le West classique que nous avons entendu là, avec cette sonorité assez ronde, assez douce, et ces passages effectivement dont il avait l'habitude de jouer en octave. Christiane, je crois que tu voulais dire un mot sur les octaves.
Oui, ça, j'aurais voulu que Gilles nous explique un peu comment justement il double la note à l'octave, ou bien enfin encore ouais. Un double octave.
Oh, très simplement, il utilise deux doigts, oui. Le pouce et puis en général l'index, et il utilise deux cordes en même temps, qui sont et les notes sont des notes à l'octave, c'est-à-dire un do. Une octave et le do supérieur à l'octave supérieure, tout simplement.
Merci Gilles.
Voilà, donc c'est une façon un petit peu particulière de jouer, mais en aparté, je crois que Gilles, tu nous disais qu'il y avait beaucoup d'autres guitaristes qui utilisaient cette technique.
Wes Montgomery a popularisé le jeu à l'octave, mais des guitaristes comme Django Reinhardt...
Ils sont les deux pour faire ça.
Qui jouaient... tous les styles.
Mais Django, il joue
sans problème, tout. Jouer à l'octave et...
Je pense que nous sommes obligés de faire une émission sur Django un de ces jours.
Peut-être, effectivement, ça vaut la peine.
Qui est d'abord la base de certains morceaux de musique assez connus, et ensuite un style qui revient à la mode un petit peu, avec ce qu'on appelle le jazz manouche. Je vous propose d'écouter... un autre morceau de musique peut-être moins connu, While We Are Young, quand nous étions jeunes. Écoutons le morceau et puis nous allons en parler ensuite. Voilà, nous avons écouté Wes tout seul qui faisait sonner sa guitare à son habitude, très mélodique et un son qui est très très rond. J'en ai profité pour demander à Gilles qu'est-ce qu'on utilisait comme ampli à l'époque. C'était les amplificateurs à tubes qui sont passés de mode et qui reviennent un petit peu actuellement chez certains guitaristes qui veulent avoir
un son assez rond, assez chaud.
Plus rond, plus chaud.
On trouve des sons ronds et chauds aussi avec des amplificateurs à transistors, nettement plus légers et souvent plus puissants. C'est une composition de Alec Wilder, 1943, interprétée en général chantée.
Chantée,
oui. Mais c'est vraiment très, très beau, très mélodique. On peut écouter un autre morceau, un autre titre qui est Bésame Mucho. Un titre latino très très connu, bien sûr, mais joué à la manière de Wes, et je pense que c'est assez assez caractéristique.
Écoutons Bésame Mucho. Thank you. Bessame Mouch revue façon Wes Montgomery, d'abord en valse, en trois temps, et ensuite avec toujours le Melvin Rines à l'orgue, vraiment un orgue avec une discrétion extraordinaire. On est loin de certains autres organistes qu'on écoutera peut-être, Gilles.
Oui, et Jimmy Cobb à la batterie. Là, on est en 1963. Peu de temps, l'année suivante, il va changer de maison de disque. Wes Montgomery, il va passer chez qui, Christiane? Chez Verve, la maison de disque Verve. Et là, il va changer de tout au tout parce que on va lui faire du commercial, quoi. Et,
de la pop,
appelons ça de la pop, musique populaire. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que Wes Montgomery va être connu dans le monde entier et il va gagner beaucoup d'argent. Et puis, le succès aidant, on a l'impression qu'il abandonne le jazz. En fait, il ne l'abandonne pas parce qu'il continue des concerts, des prestations, des spectacles, uniquement avec des formations de jazz. Il fait une tournée en Europe, et lors de cette tournée européenne, il va passer à Paris, à Londres, en Suède, et en Belgique, et en Hollande. Et de la Hollande, il y a eu un enregistrement télévisé. Et moi, j'ai retenu un morceau qu'il avait enregistré précédemment qui s'appelle « The End of a Love Affair » et où il donne une petite leçon, mais de manière très, très, très humble, au trio de jazz qui l'accompagne. C'est le Pim Jacob Trio. Écoutez, c'est très intéressant.
Voilà, donc nous avons écouté cette composition qui est très intéressante. On a dit qu'on faisait une émission avec des morceaux qui nous plaisaient. Personnellement, il me plaît beaucoup.
Voilà, ça c'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Nous aimons aussi. Il faut savoir qu'au matin du 15 juin 1968, il était dans son domicile d'Indianapolis. Il se réveille et il annonce à sa femme qu'il ne se sentait pas bien. Et quelques instants plus tard, il s'effondra et il décéda d'un arrêt cardiaque. Il avait 45 ans au moment de son décès. Il revenait d'une tournée avec son quintet. On peut dire qu'il était vraiment au sommet de sa gloire. Il avait atteint un degré de renommée que seuls peu de musiciens de jazz de cette époque avaient atteint. La ville d'Indianapolis, d'ailleurs, a nommé un parc en son honneur en 1970. Quelqu'un de vraiment brillant.
Brillantissime. Ouais, ouais. Mais avant ça, West Montgomery avait eu la chance et la joie pour nous de jouer avec un autre grand Jimmy Smith, un organiste Jimmy Smith. Et ça a donné deux albums. On écoute un extrait du premier album, Baby, It's Cold Outside.
Alors, chers auditeurs, il faudra nous rejoindre le mois prochain pour avoir beaucoup plus d'informations sur Miles Davis, qui est né en 1926 et qui a vraiment été aussi un homme de jazz très, très brillant. Il faudra aussi nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Gilles et merci Patrick.
Merci Christiane Blain.
Merci Christiane Blain.